Nous étudions Matthieu chapitre 5, les versets 33 à 48. Nous venons de commencer, nous parlons du verset 33. Nous essayons d'expliquer le sens du verbe parjurera que nous trouvons au verset 33. Quand le Christ dit, tu ne te parjureras point selon la parole des anciens, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur et de ce que tu as déclaré. Nous sommes en train d'expliquer à l'interprétation que les anciens d'Israël, la tradition rabbinique, faisaient de quelques déclarations du Seigneur en lien avec les serments. Et nous sommes à Nombre, chapitre 30, le verset 3 en ce moment. Alors, Nombre, chapitre 30, verset 3 dit, « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Nombre 3, 30, encore une fois, le verset 3. Eh bien, les rabbins ont interprété cette déclaration du Seigneur comme étant une permission de violer tout serment fait à quelqu'un d'autre que le Seigneur, tel que je viens de vous le dire. Donc, on était dans une atmosphère d'interprétation inappropriée, d'interprétation inadéquate, d'interprétation non biblique de la parole de Dieu en ce qui a trait au serment, comme ça a été le cas pour l'adultère, pour le divorce et d'autres situations encore qui vont être signalées dans la suite du passage à l'étude. Alors, on était dans une atmosphère d'égarement et les gens déclaraient n'importe quoi et promettaient n'importe quoi par serment, tout en n'ayant aucun scrupule à l'idée de mentir ou de ne pas tenir parole. Les serments faits à la légère et sans aucune sincérité étaient très courants à cette époque-là, au point que personne ne prenait plus au sérieux les serments. L'importance des serments était abîmée, était entamée, compte tenu des directions que la tradition des rabbiniques ou bien une certaine tradition rabbinique qui était très influente prenait avec les déclarations ou bien la pratique du serment dans le Nouveau Testament. Donc, au lieu d'être une marque d'intégrité, une marque d'assurance, les serments dans une atmosphère comme celle que je viens de vous décrire, les serments sont devenus une marque de duperie ou bien une marque de tromperie. Et les serments ne suscitaient plus le crédit ou bien la confiance telle que cela était destiné à être. Et comme je l'ai expliqué mercredi dernier, je sais que j'ai déjà touché le verset 33 avec vous, mais avant de compléter ce que j'ai à dire par rapport au verset 35 en particulier, il faut bien que je reprenne les versets 33 pour que le contexte soit plus rapproché pour vous. Et je disais que c'est essentiellement à cette tradition-là que Jésus s'attaque ici quand il dit, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi, et j'en passe. Le point de Jésus, c'est de dire que le fait d'invoquer quelque partie que ce soit de la création de Dieu comme témoin d'un faux serment, eh bien, revient à déshonorer Dieu lui-même, que son nom soit invoqué ou pas, que ce soit par le ciel ou par la terre, ou par Jérusalem, ou par l'autel, ou par sa tête, cela revient, parce que normalement, c'est ce qu'ils veulent éviter, de déshonorer Dieu, continuer à faire des serments sans se mettre sans susciter la colère de Dieu, finalement. C'était ça leur plan, c'était ça leur but. Et Jésus est en train de leur dire que le ciel est à Dieu. Donc, jurer par le ciel revient à déshonorer Dieu pareil. La terre est à Dieu. Jérusalem est à Dieu. La tête de chacun, la tête de chaque personne, la tête de toute personne est à Dieu. Donc, Jésus est en train de leur dire qu'il est malséant d'utiliser quoi que ce soit qui est à Dieu, que ce soit son nom ou une partie de la création de Dieu, comme témoin de quoi que ce soit qui est faux, comme témoin de quoi que ce soit qui est trompeur. Et au verset 7 et 37, il est dit que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est ça la solution que propose Jésus, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Autrement dit, du point de vue de Jésus, le langage du citoyen du royaume doit être vrai et inspirer confiance au point que on n'a pas besoin d'appuyer ses affirmations particulières par des sermons. Et c'est ce que Jésus suggère au verset 37. Après avoir mis, comment je dirais, après avoir interdit cette pratique pharisaïque consistant à utiliser des éléments importants de la nature ou autres pour pouvoir continuer à sermenter parce qu'on espère qu'en les utilisant, on ne sera pas en contravention avec Dieu, puisque ce n'est pas par son nom qu'on a juré. Jésus est en train de dire que c'est une perte de temps. Cela ne donne rien, cela eh bien, a le même effet parce que Dieu est le créateur eh bien, de tout. Et Jésus nous proposait la solution en disant que la parole de chacun, en tout cas, suivant le royaume, le principe, l'éthique du royaume qui s'est approché en lui, dont il est le roi, eh bien, les serments, peu importe, ne sont pas nécessaires du tout. Le langage du citoyen du royaume suffit. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, que votre oui soit oui, oui, que votre non soit non, non. Autrement dit, la vérité suffit à elle-même. Voilà. Dans Jacques chapitre 5, le verset 12, un passage que vous connaissez relativement bien, j'imagine, l'apôtre Jacques se fait l'écho de l'enseignement de Jésus. Il reprend la même idée de ne pas jurer ni par le ciel, ni par la terre, ni par quoi que ce soit d'autre. Dans Jacques chapitre 7, le verset 12. Tous les serments qu'on ajoute à notre déclaration dans le royaume, eh bien, ces serments-là signifient tous les serments qu'on y ajoute viennent du malin. Alors, le malin s'entend le diable. Ils viennent du malin. C'est-à-dire que la parole qu'on rajoute, le serment, eh bien, vise à contrer quelques doutes que ce soit par rapport à l'affirmation, mais ça vient du malin. L'ajout vient du malin dans la mesure où le malin, c'est celui eh bien, qui génère, qui suscite les doutes, frères et sœurs, mes bien-aimés. Donc, c'est le malin qui suscite la méfiance, c'est le malin qui suscite le doute. Alors, tout ce qu'on ajoute à la déclaration qu'on fait quand on cherche à la soutenir par un serment vient du malin. Donc, vous avez, je relis le verset 33, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu a déclaré par serment. verset 34, mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Hein? Verset 36, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre au blanc ou au noir un seul cheveu. Donc, tu ne peux pas changer la couleur de tes cheveux. Tu n'as pas de pouvoir sur tes cheveux parce que tu vous en êtes pas, je n'en suis pas, nous n'en sommes pas les créateurs. C'est ce que cela veut dire. Donc, nous n'avons pas le droit de décider de cela. Et parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus grand que nous, le créateur lui-même qui a le pouvoir d'en décider, alors, eh bien, on ne peut pas utiliser ces choses-là pour faire des serments. Maintenant, je sais que j'ai déjà dit tout cela, parle peut-être le verset 37, mais je vous avais dit que c'était très important quand je parlais de ces choses-là, de l'interprétation, de la tradition, etc., parce que je vous avais dit que c'était utile, c'était important de comprendre tout cela pour comprendre la suite. C'est la raison pour laquelle j'ai repris tout ce que j'avais dit concernant eh bien, les versets 33, 34, 35, etc. Alors, le point est le suivant. Est-ce que Jésus, en disant ce qu'il vient de dire là, votre vie, Bible est sans doute encore ouverte. Hein? Est-ce que, par ce que Jésus vient de dire, en Matthieu chapitre 33, chapitre 5, pardon, les versets 33 à 37, est-ce que Jésus condamne le serment? Ça, c'est la question théologique que aucune église, aucun serviteur de Dieu, aucun étudiant de la Bible ne peut contourner. Est-ce que ce que Jésus dit, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, etc., est-ce que ces paroles suffisent pour dire que Jésus est contre le serment? Ou alors, est-ce que Jésus est contre tout serment? La question est importante parce que dans le milieu évangélique, il y a beaucoup de discussions là-dessus, vous le savez. Nous avons, par exemple, nos frères, nos amis à anabaptistes qui ne prêtent pas serment. Donc, on ne peut pas contourner la question. Quand il n'y a pas de réponse, il n'y en a pas, parce que Dieu ne donne pas de réponse à tout. Mais quand il y en a, il faut les trouver, puis il faut les partager. Est-ce que Jésus condamne tous serments ou certains serments? Qu'est-ce que Jésus condamne au juste? Est-ce que prononcer des serments, quelle qu'en soit la circonstance, est condamné par ses propos du Christ? Est-ce que l'éthique du royaume condamne toutes sortes de serments? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez déjà appris sur le sujet, mais moi, je vais vous dire ce que je crois. C'est bien important. Si vous avez compris tout ce que j'ai dit par rapport au verset 33 tout à l'heure, 34, 35, les contournements de la tradition rabbinique, vous êtes déjà tout près de comprendre quelle est la position du Christ au juste. Je crois que Jésus ne condamne pas tout serment. Je crois que le texte que nous avons ici ne signifie pas que Jésus condamne tout serment, quelle qu'en soit la circonstance. Je sais que c'est une affirmation osée, mais c'est ça. Je crois plutôt que dans ce passage, Matthieu chapitre 5, les versets 33 à 37, Jésus s'oppose à l'habitude que certaines personnes ont d'appuyer chacune de leurs affirmations par un serment. Jésus s'oppose à l'habitude que certaines personnes avaient en son temps, avant son temps et après son temps, au moment où vous et moi, nous étudions, nous méditons la parole maintenant, que certaines personnes ont d'appuyer petit cric, petit crac, qu'ils disent, qu'ils affirment, ou du moins chacune de leurs affirmations par un serment, du genre, passez-moi l'expression, je te jure sur la tête de, devinez là, devinez le reste là. Par exemple, je te jure sur la tête de, ou les gens qui parlent de l'orage telle affaire, ou que l'éclair fasse telle affaire, fait telle affaire là. Ok? Je crois que c'est de ça que Jésus parle ici. Mais ce n'est pas tout. Je crois que Jésus, à travers Matthieu chapitre 5, les versets 33 à 37, voulait enseigner que les paroles du citoyen du royaume doivent toujours être entièrement dignes de confiance sans avoir besoin nécessairement de recourir au serment. Cela dit, je dis bien, Jésus est en train de dire que la parole du citoyen du royaume devrait suffire sans avoir besoin de recourir au serment. Cela dit, n'en déplaise, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, n'en déplaise à certains groupes de chrétiens, dont les anabaptistes, mais il y en a d'autres, à part les anabaptistes. Les paroles de Jésus dans ce passage ne concernent pas le serment prononcé sur ordre d'une autorité, premièrement, et deuxièmement, par l'action du Saint-Esprit de Dieu pour renforcer un témoignage. Jésus condamne le serment ou l'habitude du serment en veux-tu, en voilà, avant petit clic, petit crac, les gens vont recourir à toutes sortes d'éléments naturels pour prononcer des serments. Ça peut être même une certaine manière pour les gens de se mettre en valeur. Jésus les condamne. Surtout quand ça se fait à la manière des pharisiens ou de ceux qui héritaient la tradition des rabbins, pratiquaient le serment pour se justifier quand ils avaient des faussetés, des menteries, des tromperies à raconter. Jésus dit, c'est ça que Jésus condamne ici. Mais Jésus ne condamne pas tout serment dans toutes circonstances. Voilà ma position théologique sur ce sujet-là. Lorsque j'ai fait la part des choses. Par exemple, faire le vœu du mariage, lequel certains l'appellent faire le serment du mariage, et c'est tout à fait correct. En prenant Dieu pour témoin, quand on dit qu'on promet d'aimer ou de chérir l'autre toute notre vie, c'est reconnaître et c'est prendre l'engagement ferme d'honorer la sainteté, c'est sermenter ou prendre l'engagement devant Dieu en son nom, ou c'est émettre le vœu de respecter ou bien d'honorer la sainteté du mariage que Dieu accorde à ceux qui se marient. Et pour moi, ce n'est pas un péché, ce genre de serment-là. Je vous le dis parce qu'il y en a qui le croient. C'est peut-être pas courant, mais ça existe. De même, Faire un serment devant un juge, ce n'est pas un péché. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce que le pasteur est en train de raconter? En quoi ça nous concerne? Mais il y a des expériences que ça dépend. Je ne sais pas si vous avez lu certains journaux, mais dans certains groupes qui se revendiquent de la chrétienté, mais ce n'est pas si facile pour eux d'accepter de jouer, de sermenter au tribunal, par exemple. Il y en a. Pas beaucoup. C'est marginal. C'est une minorité, mais ça existe. Donc, c'est important que vous compreniez d'où ça vient, leur attitude, et pourquoi vous avez une attitude contraire. Vous devez le savoir. Vous devez avoir une attitude en connaissance de cause. Que ça ne vous dérange pas de prêter serment au tribunal, puis il y en a d'autres, ça les dérange. Faire un serment, dis-je, devant un juge, prêter le serment d'entrer en fonction dans certaines sphères de pouvoir. Il y a ce qu'on appelle les serments d'entrée en fonction. Pour ceux qui sont aux États-Unis, par exemple, ils vont occuper le fauteuil présidentiel. Eh bien, ce n'est pas contraire non plus à ce que Jésus dit en Matthieu 5, versets 33 à 37. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que ça vise, qu'est-ce que ça empêche et qu'est-ce que ça n'empêche pas. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi. N'oubliez pas la question que j'ai posée. Est-ce que Jésus, à travers Matthieu 5, verset 33 à 37, est contre tout serment dans toutes circonstances? C'est pour ça qu'il avait dit non. Et j'ai déjà évoqué les circonstances dans lesquelles il est contre, à quoi ça s'applique comme interdiction. Et je suis en train de dire à quoi ça ne s'applique pas en termes d'interdiction. À quelle autre sorte de serment ça ne s'applique pas? Et c'est le vrai serment. Hein? Quand tu vas occuper certaines fonctions au tribunal où tu vas jurer, parfois, ce n'est pas toujours au nom de Dieu, mais ça dépend de chaque pays. Mais c'est prêter serment pareil. Et il y en a qui disent non, soit jamais. Alors, comprenez bien l'enjeu ici. Il y a un homme de Dieu qui est très versé dans des questions d'interprétation biblique. C'est William Hendrickson qui résume très bien ce point de vue quand il dit... ceci. Ce que nous avons dans Matthieu 5, verset 33 à 37, aussi dans Jacques chapitre 5, le verset 12, c'est à peu près les mêmes mots, à peu près, c'est la condamnation du serment désinvolte. Voyez-vous, comme quand je disais, en veux-tu, en voilà. C'est la condamnation du serment profane. C'est la condamnation du serment inutile. Et trompeur, la plupart du temps. Un genre de serment qui est utilisé pour impressionner ou bien pour mettre du piment dans la conversation, pour contrer cette habitude, cette attitude, ce mal, ce péché. Donc, Jésus recommande la vérité en pensée, en parole et en action. Maintenant, voici quelques raisons pour lesquelles j'ai cette position ou que je partage la position de William Hendrickson. La première raison, c'est parce que Jésus lui-même a accepté de faire un serment. Bien important de comprendre cela. Lors de son procès, lorsque le grand prêtre lui a demandé, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu, et Jésus de répondre, tu l'as dit. Matthieu 26, verset 63 à 64. En répondant de cette manière, en acceptant de répondre, Jésus a accepté de faire un serment. Puisque à l'époque, c'était la formule utilisée pour faire un serment. J'ai parlé tantôt de serment par l'action du Saint-Esprit aussi. Mais ça arrive aussi avec Paul, par exemple. L'apôtre Paul fera un genre de serment en disant aux Romains, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est un serment. Romains 9, verset 1er. Il y a d'autres occurrences où Saint Paul fait un serment. Ailleurs, Paul en appellera à Christ et au Saint-Esprit comme témoin avec sa propre conscience de la vérité qu'il va dire. Et cela, c'est juré au nom de Dieu. Jésus fait d'expression comme l'expression « en vérité, je vous le dis », c'est un serment. C'est un serment. Un serment bon et due forme. Dieu lui-même fait des serments. Quand nous lisons Hébreux chapitre 6, verset 13 à 17, je n'aurai pas le temps de regarder avec vous, sauf si vous voulez vous y arrêter. Luc 1er, verset 73, acte 2, verset 30, tout cela mentionne des serments divins, des serments de Dieu. Les Juifs, quand ils sont rentrés après avoir été exilés à Babylone, ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de l'Éternel. Néhémie chapitre 10, le verset 29. Et je vous avais bien dit que quand Jésus condamne ici, il ne condamne pas la loi, il condamne les interprétations de la loi. Dieu a prévu qu'on jure par son nom. Nous venons de le lire, Lévitique 19, cette fois le verset 12. Et nombreux saints de l'Ancien Testament, à la fois avant et après le don de la loi par Dieu, ils ont adopté la pratique du juré par le nom de l'Éternel. Ainsi, Abraham a confirmé ses promesses au roi de Sodome et à Abimélec par des serments faits au nom de Dieu. Genèse chapitre 4, verset 22 à 24. 21, verset 23 à 24. Abraham a également demandé à Éliézer, son serviteur, de jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, qu'il ne prendrait pas de femme pour Isaac parmi le peuple païen de Canaan. Abraham, c'est un homme de Dieu. Un autre serment du même genre est relaté concernant Isaac dans Genèse 26, verset 31. Tout ça, c'est pour vous dire que on a une pratique assez longue dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament concernant le serment qui nous montre que Jésus condamne une certaine pratique du serment et n'en condamne pas une autre à la faveur des arguments que je viens de regarder avec vous. Donc, les gens qui sont convoqués au tribunal et qui disent qu'ils ne veulent pas assermenter parce qu'ils sont des chrétiens, mais ils ont un problème d'interprétation. Les gens qui refusent d'occuper une fonction ou qui sont élus, peut-être nommés, ça dépend de chaque situation, pour occuper une fonction, et parce qu'ils doivent prononcer un serment, ils disent non, je suis chrétien, alors je laisse tomber cet emploi-là ou cette fonction-là, mais il y a quelque chose qui les échappe. Au niveau de l'interprétation de Matthieu, chapitre 5, les versets 33 à 37. Je sais que c'est un sujet, comment je dirais, apparemment controversé. Alors, avant d'avancer, je vous laisse de la place pour poser des questions ou peut-être pour apporter, si vous avez une expérience à partager par rapport à cela, je vous laisse la place pour le faire avant que je puisse enchaîner avec le verset 38. Et tout au moins.
Pasteur.
Oui.
Oui, il y a un verset à l'appui pendant que vous exposez la leçon. Il y a le Hébreux 3, verset 11, là où Dieu dit, je jurai donc dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos.
Donc, amen. Ça, c'était Merci. Merci beaucoup. Ah, je crois que tu es là vraiment le soir avec nous.
Oui, pasteur.
Oui, l'homme de Dieu.
Oui, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, par exemple, quand quelqu'un ne veut pas quoi, je dis devant Dieu. Alors, je lève ma main, je dis devant Dieu. Ce que j'ai dit, c'est vrai.
Oui.
C'est ce mot-là, j'ai toujours utilisé pour renforcer
Oui.
la vérité que j'ai dit,
Oui,
souvent.
oui. Oui. Moi, tout est tout à fait correct quant à moi.
Ouais.
Merci infiniment.
Okay.
Et voilà. OK. C'est réglé. Je dis ça parce que j'étais allé prêcher une année en 2000. J'étais jeune prédicateur. J'ai quitté Haïti. Je suis allé prêcher à Boston. Et je ne me rappelle pas ce que notre frère disait. Bon, un frère biologique, en même temps un frère dans la foi, il disait. Et puis il avait reçu beaucoup de petits bouts de papier de gens de l'Assemblée qui ont dit, oh non, il ne faut pas jurer. Le Christ a dit qu'il ne fallait pas jurer. Bon, je ne connaissais pas autant ma Bible qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, mais c'était vraiment difficile à vivre pour ce serviteur-là. Mais je comprends que les gens étaient vraiment très, très littéralistes. Ils n'avaient pas une interprétation trop, trop bien appropriée concernant ce passage. Alors, je referme la parenthèse. Eh bien, voilà. Dieu merci, nous sommes au verset 38 pour les quelques minutes qu'il nous reste. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Je crois que tout le monde ici serait prêt à faire cela. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Hein? OK. Il faut interpréter là aussi. Sinon on est mal pris. Les paroles, commençons par dire, on aura la chance peut-être juste de parler du verset 38. Vous avez déjà entendu d'autres études, d'autres sermons sur ce sujet-là. Mais disons ceci pour avancer. Les paroles œil pour œil et dent pour dent, vous l'aurez remarqué, viennent au départ, hein, à l'origine, de plusieurs passages de l'Ancien Testament. Entre autres, Hébreux chapitre 21, les versets 17 à continuer. Si des hommes se querellent, par exemple, le texte dit, et qu'ils heurtent une femme enceinte, et la fasse accoucher sans autre accident, ils seront, je vous lis Hébreux 21, versets 17 à 25, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. N'oubliez pas, c'est important devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Donc, et comme je dis, il y a d'autres passages qui évoquent cette instruction. Lévitique 20, 20, 20, 20, 24, à partir du verset 20, et Deutéronome 19, verset 21, évoque ce fameux œil pour œil, dent pour dent, qui résume cette loi. Hein, c'est souvent sous ce nom-là qu'on parle de cette loi qu'on appelle dans le jargon la loi du talion. Alors, talion vient de tel, qui veut dire pareil, même. Hein? On a l'habitude de dire talus pater, talus filius, tel père, tel fils, par exemple, okay? En latin. Donc, même, égal, pareil. Okay? Donc, la loi du talion, c'est la loi qui veut qu'on rende le pareil de l'acte fait. Okay? Un acte pareil pour l'acte posé. Un geste pareil pour l'acte posé. Tel pour tel. Okay? Tel acte, tel acte, telle réponse. On va dire comme cela, si vous voulez. C'est aussi cette loi qu'on appelle la loi du talion. C'est la loi de la vengeance. C'est la loi de la rétribution, si vous voulez. Eh bien, cette loi, à l'origine, fut donnée par Dieu. J'avais déjà attiré votre attention sur le fait que chaque fois que le Christ dit, vous avez entendu dire, ou bien vous avez appris, eh bien, il ne cite pas, hein, les interprètes ne s'entendent pas là-dessus, hein, mais moi, je suis des interprètes qui croient que il n'est pas en train de dénoncer la loi. Il n'est pas en train de s'opposer à la loi. J'ai parlé de ça amplement dans les derniers mercredis qui m'étaient destinés. Voyez-vous, Jésus, quand il cite l'Ancien Testament, il dit, il est écrit. Dès que tu l'entends dire, vous l'entendez dire, vous avez appris, sachez qu'il fait référence à la tradition, aux interprétations des anciens, que ceux qui l'écoutaient, et les interprétations que ceux qui l'écoutaient ont héritées. Mais c'est le même cas de figure qu'on a dans ces fameux « vous avez appris ». Dans d'autres traductions, vous avez entendu dire. Il ne parle pas de la loi, okay? Il parle de l'interprétation de la loi. Bien important de répéter ça tout le temps parce que ça nous aide à comprendre certaines choses qu'il dit aussi. Donc, cette loi fut donnée par Dieu dans le but de protéger les innocents, comme aujourd'hui, comme les autres lois aujourd'hui. Protéger les innocents et s'assurer que la vengeance ou que la rétribution ne dépasse pas, ne dépasse pas l'offense subie. Donc, Jésus voulait prémunir le déséquilibre dans la sanction, dans la punition par rapport aux gestes posés. Et aussi, il voulait s'assurer de protéger les innocents. Donc, c'est pour ça que j'aime vous dire que la loi en elle-même est bonne. La loi vient de Dieu, la loi ne peut pas être mauvaise. Il ne faut jamais oublier ça. Beaucoup de gens ont tendance à négliger cet aspect-là de la chose. Ah, la loi, parce que Jésus a dit qu'il est plus grand que Moïse, qu'il est plus grand que David, qu'il est plus grand qu'Abraham, qu'il est plus grand que Salomon, et qu'il méprise la loi que Dieu a donnée, que ces gens ont portée. Loin de là, refermons la parenthèse. Alors, je lisais avec vous tout à l'heure, j'ai dit, notez bien, les juges, devant les juges. Alors, c'était pour dire que c'était les juges d'Israël qui avait la charge, eh bien, d'appliquer ou de faire appliquer la loi, cette loi-là. Mais, jusque-là, Jésus n'a pas de problème. Mais la tradition dont héritaient les pharisiens, comme ils l'ont fait pour d'autres sujets, divorce et autres, hein, on a vu cela, ils avaient étendu l'application de cette loi aux relations personnelles. Mais la loi n'était pas donnée à l'origine pour des relations personnelles. C'était pour des relations de travail en particulier. Okay? Ils l'ont étendue aux relations personnelles, premièrement. Ils utilisaient cette loi, deuxièmement, pour justifier la vengeance personnelle, alors que la loi de Dieu, elle, dans le même Ancien Testament, la loi de Dieu condamne la vengeance personnelle. Puisque dans Lévitique 19, le verset 18a, il est écrit, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. » Voyez-vous, alors, Jésus n'est pas si loin que cela. Il n'apporte rien de nouveau par rapport à la parole de Dieu. Ce qu'il apporte de nouveau, c'est plutôt par rapport, c'est son interprétation qu'il propose. Comme je n'arrêtais pas de vous le dire depuis des mercredis, c'est son interprétation qui l'oppose à l'interprétation eh bien, des scribes et des pharisiens. C'est une manière pour moi de vous dire que Jésus ne remet pas en cause ici le principe de la loi qui est le principe de la juste rétribution. Il s'insurge plutôt, il s'oppose plutôt à l'application personnelle de la loi du talion qu'enseignaient, que proposaient les pharisiens. Jésus, cela dit ici que les relations personnelles doivent plutôt se baser sur l'altruisme, sur la générosité, sur la compassion, sur la miséricorde, sur l'amour et sur la justice de Dieu au lieu que ça soit basé sur la justice, la vengeance personnelle telle que les pharisiens l'ont hérité et ont encouragé les gens de leur temps à le faire. Cela dit, Jésus va, comme il aime à le faire, puiser quelques illustrations dans la vie quotidienne pour faire passer son message. Et le premier exemple qu'il va prendre, c'est au verset 39, quand il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. L'habitude de gifler par des insultes ou physiquement, eh bien, ça existait. Et on sait que c'est la pire insulte aujourd'hui encore au Moyen-Orient, vous le savez, tant que moi, ou peut-être mieux que moi. Eh bien, il prend cet exemple extrême-là pour dire que offrir, donner, soumettre l'autre joue après avoir été giflé à la première, à une des joues, eh bien, démontre qu'on a une attitude qui est loin de la vengeance. On a un esprit débonnaire. On a un esprit doux. On a un esprit humble. Au verset 40, il va prendre une autre illustration tirée de la vie quotidienne. Pour dire au verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. La tunique, vous le savez, c'est un genre de sous-vêtement. Et le manteau, c'est un survêtement. Bon. Quand une personne n'avait ni argent, ni rien d'autre, lors d'un procès contre elle, contre cette personne-là, le tribunal pouvait exiger souvent que l'amende à payer par cette personne soit réglée par des vêtements. Jésus dit ici que le citoyen du royaume devrait être prêt à abandonner même son manteau plutôt que d'offenser ou de susciter de l'amertume chez celui qui lui fait procès. Ou alors, si un jugement légal, comme on en connaît aujourd'hui, comme il y en a aujourd'hui, est prononcé contre le citoyen du royaume, pour un certain montant d'argent, par exemple, le citoyen du royaume devrait être prêt à offrir davantage que ce qui lui est demandé. Si on lui demande 100 $, mais il donne 300 $, ou 200 $, ou 400 $. Verset 41, il prend un autre exemple tiré de la vie quotidienne, de son temps, pour expliquer le principe de son royaume par rapport à ceux qui pratiquaient la vengeance. Il dit, verset 40, « Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. » Ça veut dire quoi ça? La loi romaine donnait aux soldats romains le droit de forcer un civil à porter son sac avec tout son équipement, ses munitions, sur un mille. Un mille, c'est une distance. On en a parlé quand on parlait de l'ancien, quand on étudiait l'Apocalypse, je me rappelle bien. Un mille qui était l'équivalent, qui est l'équivalent d'à peu près 1 et 482 millièmes de kilomètre. Un kilomètre et quelque chose. Écu. Un kilomètre écu. On pourrait dire comme cela. C'est ça, un mille. Le soldat romain avait le droit d'exiger à un civil de porter ses affaires sur une distance de un mille ou un kilomètre et quelques. Bon. Cette loi visait à soulager le soldat romain par rapport à son fardeau. Mais en même temps, il arrivait que cela représentait une insulte, un mépris pour ce qu'il faisait, surtout quand la Rome dominait un endroit, un peuple, et que c'est ce peuple-là qui devait, un membre de ce peuple-là qui devait porter le fardeau pour le soldat romain. Oh, c'était humiliant. Voilà pourquoi Jésus choisit les situations les plus humiliantes, les plus extrêmement impossibles, pour nous dire que même dans ces situations-là, on le fait deux fois, on en fait le double, que qu'est-ce qui est demandé? Quel royaume, quelle éthique, quel principe, quel enseignement. le citoyen du royaume devrait non seulement porter ce fardeau de bon cœur, avec joie, de plein gré, dit Jésus, mais même il devait être prêt à en faire le double que ce qui lui est demandé. Bon, même chose, verset 42, donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. En veux-tu, en voilà. Dès que quelqu'un veut, il vient chercher, tiens, donne l'argent. Maintenant, comme on l'a fait depuis qu'on a commencé à étudier ensemble, comme on l'a fait tout à l'heure pour les versets 33 à 37, il faut interpréter. Qu'est-ce que Jésus, est-ce que c'est vrai que Jésus dit que si quelqu'un vole ma voiture, je lui donne la voiture de ma femme? Il dit, viens, vous avez oublié une autre voiture, il y en a deux dans la maison, alors il faut prendre les deux. Poser la question, c'est y répondre. Donc, il ne faudrait pas interpréter ce texte de façon littérale. Vous l'avez compris peut-être mieux que moi. Est-ce que Jésus est en train de dire que dans un pays qu'on connaît bien, il y a des assaillants qui rentrent dans une maison, ils kidnappent des gens, puis il y en a un qui s'était caché en dessous du lit, puis le chrétien, le citoyen du royaume doit appeler les voleurs, les bandits pour dire, il reste trois personnes en dessous. Vous les avez oubliés, venez les chercher. On comprend que c'est non, mais qu'il faut interpréter. Nous y reviendrons mercredi prochain, Dieu voulant, si le Seigneur nous prête vie, pour interpréter tout cela ensemble. Il y a, la Bible n'est pas que littérale, et la Bible n'est pas que littéraire. Il y a du littéral, il y a du littéraire. Alors, c'est dans l'action du Saint-Esprit, dans la prière, dans le jeûne, dans la soumission à Christ, qu'on interprète sa parole. Et c'est ce que nous devons, vous et moi, continuer à faire, avec votre pasteur ou sans votre pasteur. C'est de lire avec discernement pour voir ce que le texte veut dire et ce que le Saint-Esprit nous révèle de sa parole, de la parole qu'il a lui-même insufflée par sa science, par son omniscience, par son omnicompétence, par sa sagesse infinie. Alors, nous y reviendrons, mais je sais que vous savez déjà qu'il ne faut pas prendre ça de manière littérale. Que le Seigneur nous bénisse ensemble, frères et sœurs.
Amen. 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 Merci, Pasteur Servo. Ouais. Pasteur Servo.